Chapitre 23. Simone marchait d'un bon pas sur le rang Soriol. Par la fenêtre de leur maison, les quelques villageoises qui habitaient ce chemin la suivirent du regard avec curiosité. Elles avaient été habituées de voir la jumelle se diriger vers la Maison Bleue depuis plusieurs années. Cependant, la mort des lois avait mis fin à cette habitude presque quotidienne. C'est pourquoi la plupart cessèrent leurs activités pour coller leur nez à la vitre et tenter de suivre le parcours de Simone et Béatrice. Allait-elle vraiment chez Madeleine et Freddy? « Allez, Béa, il fait froid. Marche un peu plus vite, ma fille. » la pressa Simone en frottant ses mains l'une contre l'autre. Il lui faudrait demander à Palmyre si elle pouvait fouiller dans sa réserve de mitaines. L'année dernière, elle avait évité de le faire pour ne pas avoir à se rendre chez Madeleine. Sa famille et elle avaient usé leurs accessoires d'hiver, car Simone n'avait rien tricoté de l'automne. Consciente que les rideaux de certaines habitations se soulevaient à son passage, la femme fit mine de ne pas les voir pour éviter de saluer les curieuses. « Pas de leurs affaires », marmonna-t-elle en piétinant le sol sur place, pendant que les petites jambes de Béatrice faisaient de leur mieux pour suivre le rythme. L'enfant, orgueilleuse, refusait que sa mère la prenne, et cette dernière évitait des crises en la laissant marcher à ses côtés assez souvent. Tom était fier de ce trait de caractère, en disant à sa femme qu'il était content d'avoir une fille qui saurait se tenir debout dans la vie. « Pas sûr que son mari va penser la même chose », avait répondu Simone. « Moi, je suis bien satisfaite de t'avoir mariée, malgré ton mauvais caractère », l'avait taquiné Tom, alors qu'Horace le regardait avec surprise. Son fils avait toujours été le plus sérieux de ses enfants, et depuis la noyade des lois, il s'était encore plus renfermé. Alors qu'elle s'apprêtait à houspiller sa fille encore une fois, Simone décida de respecter son allure en songeant aux paroles de son mari. Elle fixa donc la mer et les gros goélands argentés qui bravaient les vents au-dessus de la plage. Malgré la distance, elle les voyait plonger dans l'eau glaciale pour ensuite voler à moins d'un pied au-dessus du fleuve avec une agilité évidente. Même si Simone ne distinguait pas les vigneaux d'où elle était, elle devinait que les travailleurs avaient jeté les entrailles dans l'eau, juste aux cris puissants que poussaient les gros oiseaux marins. Délaissant son observation, elle tourna la tête pour voir où était rendue sa fille, quand elle réalisa que l'enfant n'était plus autour d'elle. « Béatrice? Voyons, veux-tu bien me dire où tu t'es cachée? » Avançant vers la maison de Lucienne, qui était en biais de celle de sa sœur sur le chemin, Simone fouilla du regard les grands foins qui longeaient la clôture. « Béatrice! » cria-t-elle. « J'ai pas le goût de jouer, allez, viens-t'en, maman est gelée! » Mais la petite ne réapparut pas, et le cœur de Simone se mit à battre férocement dans sa poitrine. Serrant son manteau d'une main au niveau de son cou, elle inspira profondément pour se calmer. « Là, tu vas arrêter ça tout de suite, Simone la Violette! » s'admonesta-t-elle. « La petite bonjour te joue un tour, elle va en entendre parler. » Marchant à grandes enjambées dans le chemin de terre, Simone continua de crier le nom de sa fille, tout en regardant de chaque côté du rang. Il y avait bien un fossé qui longeait la route, mais rien d'assez profond pour que Béatrice s'y soit blessée en tombant. Les yeux remplis de larmes, Simone tourna de bord pour retourner vers la Maison Bleue, en se disant que l'enfant avait dû la devancer, alors qu'elle rêvassait face à la mer. En 5 minutes, elle s'est pas rendue à percer quand même. Je m'énerve pour rien. J'étais pas comme ça avant, j'haïs ça, maudit que j'haïs ça. Ce trait de caractère, apparu chez elle à la suite de la mort des lois, agaçait Simone, mais elle réalisait qu'il était là pour rester. L'inquiétude maladive qu'elle ressentait lorsqu'une de ses filles disparaissait sans qu'elle sache où elle se trouvait, lui faisait perdre tous ses moyens. La femme forte et décidée qu'avait épousé Tom, et dont il vantait les mérites, avait fait place à une mère nerveuse et facilement anxieuse. Inspirant profondément, elle courut jusque chez Madeleine et cogna fortement sur la porte de côté. « Oui? Oh! Simone, allô? » répondit la femme en souriant de bonheur. Mais son sourire disparut devant l'air soucieux de sa jumelle. Intimidée, elle crut que sa sœur venait l'aviser qu'elle avait changé d'idée et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Après tout, les deux ne s'étaient pas revus depuis les funérailles de Bourbeau-Marsolais. Madeleine avait décidé de laisser Simone prendre les devants. Elle voulut la faire entrer dans la cuisine d'été, mais la visiteuse secoua vivement la tête. « J'ai perdu Béatrice », annonça Simone en serrant frénétiquement ses mains l'une contre l'autre. « Je la trouve plus, Maddy, aide-moi. Je sais pas où est la petite. » « Voyons donc, qu'est-ce que tu racontes? Attends une minute. » Madeleine s'empressa d'aller demander à sa grand-mère de surveiller Arthur qui jouait dans son parc. Puis elle prit son manteau et sortit rejoindre Simone, qui était retournée sur le rang Soriol. Madeleine empoigna les épaules de sa sœur pour la forcer à la regarder. « Elle est où, Béa? Je comprends pas. On s'en venait de voir et j'ai arrêté quelques minutes pour regarder la mère et lui laisser le temps de me rejoindre. Quand je me suis retournée, elle n'était plus là. » La moue sur le visage semblable au sien peina Madeleine, qui s'empressa de rassurer sa sœur. « On va la trouver. Elle doit être cachée dans les foins. « Béatrice! Béatrice la Violette, sors de ta cachette immédiatement, m'entends-tu? » Alertée par les cris répétitifs des deux femmes, Lucienne émergea à son tour de sa maison. Depuis la mort de son époux, la femme arborait un air triste, tout en étant sereine et résignée. Ses enfants étaient repartis après les funérailles et, seule dans sa petite maison, la femme s'ennuyait de son tibouk. « Le pire, avait-elle murmuré à Palmyre, c'est la nuit. Tu sais quand j'ai le réflexe de glisser mes pieds contre les siens et que je réalise que je pourrai plus jamais. C'était pas un jaseux, mon homme, mais il savait comment me réchauffer. » L'octogénaire l'avait laissé pleurer, sachant que rien ne pouvait atténuer cette tristesse, sauf le temps. Enveloppée dans une épaisse veste de chasse à carreaux, Lucienne s'approcha des jumelles. « Qu'est-ce qui se passe, les filles? » « On cherche Béatrice, elle doit être en train de jouer un tour à sa mère, » répondit Madeleine d'un ton posé pour éviter d'ajouter au sentiment de panique qu'elle sentait chez sa sœur. « Hein? » Le visage rond de Lucienne montrait son incompréhension et Simone la dépassa sans répondre. Elle n'avait pas de temps à perdre à expliquer la situation. Madeleine mit rapidement sa voisine au courant et, sans s'énerver, celle-ci se lança aussi à la recherche de la gamine. Les enfants qui s'éclipsaient au village, c'était fréquent. On les retrouvait dans les jardins, sous les balcons, dans les champs. Cependant, celle-ci était bien petite pour s'éloigner seule. Cela faisait une quinzaine de minutes que Béatrice avait disparu de la vue de sa mère, et cette dernière s'était mise à imaginer les pires scénarios, même les plus improbables. Elle se tourna vers sa jumelle et murmura « Elle aurait pas eu le temps d'aller à la plage, hein? Elle arrête pas de m'achaler pour aller voir Horace. Non, Simone. Arrête ça tout de suite. Elle a pas de pouvoir magique pour voler jusqu'en bas. Ta fille doit tourner autour d'une maison. » Sur le rang Soriol, il y avait peu de demeures directement en bordure du chemin. L'église au coin de la côte du Sureau était trop loin. Il y avait aussi la maison du Bedeau et son épouse, la petite demeure jaune de Jésabelle Contant et puis celle de Lucienne et de Madeleine. Les autres maisons étaient juchées sur le flanc de la montagne et Béatrice n'avait pas eu le temps de monter les allées qui s'y rendaient. Donc, les femmes déterminèrent que chacune d'entre elles ferait une inspection complète d'une des habitations les plus près. Tout en criant le nom de la petite, Madeleine tentait de rester calme, en se disant que rien n'était arrivé à Béatrice. « Béa! Béatrice! » Quand Lucienne arriva à l'arrière de chez elle, c'est avec un grand étonnement qu'elle aperçut une petite tuque rouge qui dépassait de l'arrière de la cabane dans laquelle Bourbeau rangeait ses agrès de pêche. Elle courut sur ses jambes courtes, tout en hurlant aux deux sœurs « Je l'ai trouvée! » Arrivée aux côtés de Béatrice, quelle ne fut pas sa surprise de voir la gamine, un sourire rayonnant sur son visage rougi par le froid, lui présenter la trouvaille qui l'avait omnubilée au point qu'elle n'avait pas répondu aux appels de sa mère et de sa tante. « Eh, ma tanante, veux-tu bien me dire « York! » Jette ça, Béatrice! » Reculant de trois pas pour éviter la couleuvre avec laquelle l'enfant jouait, Lucienne tira la langue de dégoût quand Simone arriva à ses côtés à bout de souffle. « Elle est correcte? Elle va bien? » s'informa la femme en courant vers sa fille cachée par les grandes herbes longeant la cabane. Les yeux remplis de larmes, elle se pencha pour soulever l'enfant sans s'apercevoir ce qu'elle tenait à la main. Lucienne n'eut pas le temps de l'avertir que la couleuvre fut balancée autour du cou de Simone lorsqu'elle monta Béatrice contre son torse. « Ah! » Je vous le jure, grand-mère, j'ai jamais entendu un hurlement aussi puissant pour une petite bébite de même. se moqua affectueusement Madeleine en servant une tasse de thé bouillante à sa jumelle, assise sur le bout du divan près de Palmyre. Même si Simone était entrée chez sa sœur de son plein gré, il n'en demeurait pas moins qu'elle le faisait à l'insu de son mari et qu'elle restait hésitante à renouer les liens avec elle. La vieille dame était tellement heureuse de voir ses petites filles ensemble qu'elle en avait oublié les douleurs de ses vieux os. Quand Madeleine s'était avancée dans le salon, suivie de sa jumelle et de Béatrice, leur grand-mère avait tenté de ne pas montrer son étonnement. Assise dans la berçante près du poêle, elle essayait de broder de délicates fleurs sur le tablier qu'elle voulait offrir à Lucienne. Malgré ses lunettes, la vue de Palmyre faiblissait, et elle constatait que les détails ne pouvaient être aussi précis qu'auparavant. La petite Béatrice restait plantée à quelques pieds de la vieille femme qui l'intimidait. Depuis la distance qui s'était installée entre les sœurs, Palmyre n'avait malheureusement pas eu de contact avec l'enfant. Elle se pencha pour déposer sa broderie sur la table et tendit une main aux doigts arqués. « Comme ça, tu as trouvé une belle couleuvre, Béatrice? Moi aussi, j'ai toujours aimé ça. Quand elle se promène par terre, c'est comme si elle dansait, tu trouves pas? » L'enfant essaya de déterminer si l'étrange personne aux cheveux blancs fins comme des fils de soie pouvait être fiable. Pinçant sa petite bouche entre ses doigts, elle avança d'un pas. « Couilleuvre! Maman a peur de la couilleuvre! Veux-tu que je te dise un secret, ma puce? » murmura Palmyre en lançant un regard rieur vers les deux sœurs si semblables qui se tenaient l'une près de l'autre dans le salon. Curieuse, Béatrice ne mit qu'une seconde pour décider que cette femme avait l'air gentille. Elle s'approcha donc encore et se glissa contre la cuisse de Palmyre, qui la hissa ensuite sur ses jambes. La vieille femme chuchota à son oreille et l'enfant se mit à rire en pointant sa mère d'un doigt. Simone fronça les sourcils, faisant mine de se fâcher. « Wow, ça va faire le rire de moi! » Quand même, Simone, t'aurais dû te voir la face quand la couleuvre s'est enroulée autour de toi. J'aurais aimé ça que tu sois à ma place, Maddy. Je suis pas certaine que t'aurais fait mieux. Madeleine continua à rire et s'avança pour déposer sa bouilloire de fonte sur le poêle. Elle précisa, j'ai jamais vu une couleuvre faire un si grand vol planer grand-mère. Je pense que les hommes ont dû la recevoir dans leur barge au milieu de la baie. Même Simone, qui essayait de rester un peu distante, ne put s'empêcher d'éclater de rire à l'évocation de cette image. Comme Béatrice écoutait sagement la grand-mère, Simone fit un geste vers sa sœur, qui s'approcha aussitôt. Elle ne put aller plus loin que le bas de l'escalier, puisqu'un cri annonçant le réveil de son fils se fit entendre. Mordant sa lèvre supérieure jusqu'à se faire mal, la femme hésita en promenant son regard du palier supérieur à sa jumelle, qui s'était tendue au premier cri lancé par Arthur. Pourtant, Simone s'était préparée depuis le lever du jour. Elle savait que le risque de voir son neveu était évident. Les enfants ne dormaient pas sur commande. « Y est où le bébé? » demanda Béatrice, sa petite voix claire fracturant le silence troublé seulement par les pleurs d'Arthur. « Dans la chambre en haut, » chuchota Madeleine en marchant jusqu'à la petite table du salon. « Simone? » demanda-t-elle en fixant son regard sur sa sœur. Cette dernière ferma les yeux un moment avant de hocher la tête de haut en bas. Comprenant qu'elle lui donnait son accord pour aller chercher son fils, Madeleine grimpa l'escalier en vitesse malgré son poids. Rendue près du petit lit de son fils, elle sourit en le voyant debout, le visage rouge de frustration. « Là, là, me voici, mon bonhomme. Bon, viens que je te change et que je t'amène voir la belle visite, puis on va aller prendre une marche. » « Impossible !» cracha aussitôt Madeleine, sans savoir qu'elle utilisait les mêmes paroles que sa sœur lorsque Rosalie l'avait mise au courant de la situation. « C'est ce que j'ai d'abord dit, moi aussi !» répondit Simone en déplaçant son regard vers le visage horrifié de sa jumelle. « Mais je te jure que Rosalie est bien crédible. Elle m'a donné des détails qui font peur. » Madeleine replaça son garçon dans son carrosse. Arthur était un bon bébé. Lorsqu'il était nourri et langé, peu de choses le dérangeaient. Il aimait les promenades extérieures, assis en tenant le bord de son landau. Palmyre lui avait confectionné un manteau d'automne en grosse flanelle et il ne s'était pas aperçu qu'elle avait posé la fermeture éclair à l'envers. La première fois que Madeleine avait voulu enfiler le vêtement à son fils, elle était restée éberluée. « J'ai mon voyage, mon gars. Grand-mère est vraiment en train de perdre la vue, il faut croire. » Peu désireuse de laisser l'aïeul réaliser son erreur, Madeleine avait attendu son retrait pour la nuit, et lorsqu'elle avait été certaine que sa grand-mère dormait, elle s'était empressée de corriger le tir. Avec sa tuque bleue nouée sous son menton baveux et ses épaisses mitaines, le bébé ne risquait pas de prendre froid. Heureusement, car sa mère et sa tante décidèrent d'un commun accord de se rendre à l'église pour confronter leur frère. Si Jacqueline a osé abuser ainsi de la petite taille-fère, je te jure que je vais lui dire ma façon de penser, cracha Madeleine, alors que Simone observait le visage de sa sœur jumelle congestionné par la colère. Simone avait toujours été celle qui se confrontait aux idées différentes de son aînée, celle qui osait donner son opinion, même dans un groupe constitué d'hommes, celle qui tenait bon lorsqu'on tentait de briser ses convictions. N'ayant plus l'énergie pour se battre depuis la mort d'Éloi, elle observait avec stupeur le changement qui était aussi apparu chez Madeleine. « Tu vas faire ça, toi? Dire à Jacqueline tout-puissant ce que tu penses? Eh bien, on aura tout vu. » Madeleine arrêta d'avancer. Les mains serrées sur le bras du carrosse, elle inspira profondément, avant de plonger son regard noisette dans celui de sa jumelle. Sa décision était prise. « On n'a jamais parlé de ce jour-là, Simone. Non. Pas maintenant. » Souffla celle-ci. « Pas ici. » La femme se pencha pour prendre Béatrice dans ses bras et ainsi se donner une contenance. Mais Madeleine la stoppa en posant son gant sur son épaule. Sous sa tuque verte, ses yeux étincelaient de larmes contenues. Elle serra les mains de sa jumelle qui tentait de reculer. « J'ai fait la pire erreur de ma vie le 15 juin 1934. » Continua Madeleine, déterminée à enfin se faire entendre. « Si tu savais comme j'ai encore de la peine à l'idée de ce que je vous ai fait. Tu as tous les droits du monde de refuser de me voir, de me parler, de m'écouter. Depuis que j'ai mis Arthur au monde, je me demande si j'aurais eu ta force de continuer. » Simone se tourna vers la mère et croisa ses bras sur sa poitrine dans un geste défensif. Elle doutait à présent du bien fondé de sa démarche. Voulait-elle vraiment reprendre sa relation avec Madeleine? Cette dernière savait qu'elle marchait sur la corde raide. Mais si le pardon lui était accordé, elle voulait s'assurer que c'était pour toujours, que Simone ne reviendrait pas sur sa décision à la moindre dispute, au plus petit conflit. Elle avait trop souffert de l'absence de sa sœur pour songer à revivre ce calvaire. Avant d'être de nouveau investie à 100% dans sa relation, il lui fallait s'en assurer. « Je me demande si j'aurais eu ta force, » répéta-t-elle. « Quand tu m'as approchée le jour de l'accident de nos maris, j'ai honte de dire que mon cœur pleurait et riait à la fois. J'étais paniquée à l'idée que Freddy disparaisse avec Tom. D'un autre côté, juste sentir près de moi, sentir nos corps vibrer à l'unisson comblait une partie du vide qui s'est formé en moi depuis la noyade d'Éloi. Non, Maddy, » pleura Simone en secouant sa tête. Mais Madeleine était résolue. Son fils grignotait un morceau de pomme, tout comme Béatrice. Le temps était frais, sans être glacial. Il faisait encore bon à être dehors. Elle saisit les mains de sa sœur de force et l'obligea à la regarder. « J'ai aimé Éloi, comme s'il était le mien. Tu le sais, ça? »« Oui, » souffla Simone. « J'ai eu envie de me laisser couler, moi aussi, quand j'ai réalisé que j'avais causé sa mort. Si j'avais pas été enceinte de ce petit bonhomme-là, » elle pointa à Arthur, « je suis persuadée que je me serais laissée mourir, » murmura Madeleine en pleurant maintenant à chaudes larmes, elle aussi. « Mais dis-moi, que tu sais que j'ai pas fait exprès, Simone. Que tu comprends que je vivrai toute ma vie avec cette culpabilité. Qu'il n'y a pas pire torture que de savoir que j'ai fait autant de peine à la personne qui compte le plus au monde pour moi. Malgré Arthur, malgré Freddy, » avoua la jeune femme. Trompe-toi pas, j'aime ma famille, c'est juste que notre lien à nous. J'avais toujours cru que c'était comme un fil de fer incassable. Simone ne cessait de mordre ses lèvres en laissant des larmes silencieuses couler sur ses joues pâles. Les sœurs se ressemblaient encore, malgré le visage aminci de l'une et la grossesse de l'autre. dans l'allégresse comme dans la douleur, les jumelles avaient les mêmes mimiques et des gestes semblables depuis qu'elles étaient toutes petites. Avant qu'on poursuive notre route ensemble, j'ai besoin de savoir que tu me pardonnes, du moins que tu commences à le faire. Je passerai pas au travers d'une autre déchirure dans notre relation, Simone. Si tu hésites encore sur ton pardon, j'attendrai que tu sois prête. Mais j'attendrai sans te voir, sans te parler, comprends-tu? Cette dernière ne répondait toujours pas. Elle s'éloigna de quelques pas pour inspirer à fond et tenter de faire le point dans ses idées. Simone n'avait pas pris une décision réfléchie le jour de l'accident de leur mari lorsqu'elle avait laissé entrer sa jumelle de nouveau dans sa vie. Elle n'avait guère pensé aux conséquences de ce geste. Elle avait su ce jour-là qu'elle ne passerait pas au travers de cette épreuve sans s'appuyer sur Madeleine. Est-ce que ça voulait dire qu'elle lui pardonnait son offense? Levant le menton vers le ciel nuageux, Simone tenta d'obtenir une réponse de son fils. « Toi, mon Éloi, tu lui pardonnes à ta tante? » questionna-t-elle en silence. Madeleine respectait le silence de sa sœur, tout en priant, les mains crispées sur le landau d'Arthur. Quand Béatrice cria d'une voix enjouée, « Maman, regarde le bébé, il fait une bouille! » Simone posa son regard sur Arthur, qui avait fini de manger son fruit et avait une grosse bulle de salive sur les lèvres. Elle leva les yeux sur Madeleine et laissa enfin tomber sa réponse dans un murmure entrecoupé de sanglots. « Oui, Maddy. Je te pardonne. Oui, je suis prête à reconstruire notre lien. » Madeleine se mit à pleurer, sous les regards soucieux des deux enfants. Arthur, peu habitué à ce comportement de sa mère, fit la lip, la lèvre inférieure tremblant de plus en plus jusqu'à ce qu'il explose lui aussi en larmes. « Chut, chut, mon Arthur !» clama Madeleine en le prenant contre elle. « Maman est contente. Maman est tellement contente !» Elle échangea un regard affectueux avec Simone, et c'est Béatrice qui eut le dernier mot. « Pourquoi tu pleures si t'es contente, ma tante Maddy ?»